Frères et sœurs, bonsoir. Nous sommes accueillis dans cette chapelle par le Seigneur Jésus lui-même, qui va préparer sûrement nos cœurs pour accueillir ce qu'il veut nous transmettre à chacun d'entre nous. Et particulièrement, nous allons, avant de commencer l'heure sainte, ce temps de prière pour tenir compagnie à Jésus dans le jardin des Oliviers, nous mettre à l'écoute du cœur même de Jésus, pour lui demander de nous apprendre à prier. Nous commençons ce soir, frères et sœurs, chères sœurs aussi, ainsi que vous, chers auditeurs de Radio Espérance, une petite retraite qui sera prêchée par les chapelains en début de ce carême, qui commence ce soir et cette retraite va finir dimanche. Il y aura des différents enseignements, dans le cadre de ce que nous avons appelé les Paradays, ces jours autour du premier vendredi de chaque mois, pour pouvoir mieux approfondir cette année, surtout la confiance que ce grand saint qui est Claude la Colombière nous apprend. Alors, Jésus qui nous apprend à prier. Nous allons passer donc une heure avec lui, nous faisons cela tous les premiers jeudis du mois. Et ce soir, je vais vous proposer simplement de nous arrêter un peu sur l'attitude de Jésus dans la prière, la façon dont lui s'adresse au Père, mais essayons aussi de savoir, enfin de comprendre, de méditer sur ce que lui dit dans sa prière. Et surtout, sur la relation avec son Père. Et pour cela, je vais vous proposer de lire, de méditer ensemble aussi, un petit texte de la lettre aux Hébreux qui parle justement de la prière de Jésus. Je vais utiliser ici une traduction qui est proposée par le Père jésuite, donc de la Compagnie de Jésus, Albert Vanois, duquel je vais aussi m'inspirer durant cette méditation. Ce père qui est un expert dans l'interprétation de cette épître aux Hébreux, ainsi que d'autres textes bibliques, un grand professeur d'exégèse, recteur aussi de l'Institut biblique pontifical à Rome, jusque dans les années 98. La traduction que je vous propose est presque celle de la liturgie. Alors, vous, chers auditeurs, si vous avez une Bible près de vous, ce serait bien d'ouvrir dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 5, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Je vais lire ce texte. Hébreux 5, 7 à 10. Au jour de sa chair, ayant offert avec une violente clameur et des larmes, des demandes et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé en raison de son profond respect, tout fils qu'il était, il apprit de ce qu'il souffrit l'obéissance. Et ayant été rendu parfait, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent principe de salut éternel. Ayant été proclamé par Dieu grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Donc je vous propose de lire tout simplement ces quelques versets en essayant de comprendre ce que cet auteur de l'Épître aux Hébreux, qui prend beaucoup de temps d'ailleurs durant toute sa lettre, de montrer que Jésus est le grand prêtre choisi par Dieu, en montrant en même temps sa divinité, tout en soulignant qu'il est resté un de nous, un vrai homme. Et il prend cet exemple de la prière pour montrer justement ce rôle du Seigneur Jésus, le grand prêtre, qui, en tant qu'homme, il s'adresse à Dieu, et en tant que Dieu, eh bien, il répand ses grâces, ses bénédictions sur le monde. Il lui donne le salut éternel. La première chose que je voudrais souligner tout simplement, c'est que cette prière de Jésus telle qu'apparaît dans ce texte nous montre en fait son désir d'exprimer ses souffrances d'une manière très humaine. Les premiers mots, au jour de sa chair, nous disent qu'il s'agit du temps de l'existence mortelle du Christ, que nous appelons la vie publique. Et d'ailleurs, pour parler de la vie d'un homme, la Bible dit « ses jours ». C'est pour nous rappeler l'aspect limité de notre vie. Les jours de l'homme sont comptés. Puis d'autre part, le mot « chair » est employé souvent pour exprimer la faiblesse de l'homme, sa fragilité. Alors l'auteur de l'Épître aux Hébreux se réfère donc à l'existence humaine de Jésus et donne à entendre qu'elle le met à notre niveau, homme entre les hommes, et comme nous, fragiles et voués à la mort. Jésus a été en effet notre semblable dans toutes les tribulations. Nous pouvons trouver cela au chapitre 2 ou encore au chapitre 4 de cette même Épître. Aussitôt après, l'auteur nous parle d'une situation d'angoisse qui est provoquée par la menace de la mort. En effet, il s'agit de la passion de Jésus. On peut comprendre facilement. Alors, sous cet événement déchirant qui est la passion, l'auteur nous met en face de deux perspectives différentes. D'une part, la passion est une prière qui a été exaucée. Le Christ a offert demande et supplication, dit le texte, et a été exaucé. Mais si on lit la phrase, il ne s'arrête pas là. Le vers principal est un peu plus loin. Et ce qui a lieu aussitôt après cette précision, eh bien, on nous dit qu'en fait, il ne s'agit plus de prière, mais de toute autre chose, c'est-à-dire de l'obéissance. Il a pris de ce qu'il souffrit l'obéissance. C'est ça le vers principal. Donc du coup, on est mis devant une sorte de contraste, même, il semble, une contradiction. D'une part, le Christ est exaucé, et puis d'autre part, ben, il s'est complètement soumis à Dieu, il lui a obéi. D'une part, c'est l'angoisse, et d'autre part, c'est la volonté de Dieu qu'il veut accomplir. Alors, comment est-ce qu'il faut comprendre cela? Qu'est-ce que cette parole de Dieu veut nous dire? Je pense que c'est aussi une expérience, peut-être par laquelle nous passons souvent. Il nous arrive, n'est-ce pas, de nous inquiéter de la qualité du contenu même de notre prière, surtout quand on attend et on a l'impression que Dieu ne nous exauce pas, en fait. On a l'impression qu'il ne nous écoute même pas. Et alors, soit on se dit « je ne prie pas bien, donc il faut que je vois qu'est-ce qu'il faut faire », et on se dit « ben tiens, je vais peut-être profiter de ce temps de carême pour réviser un peu ma façon de prière », ce qui est très bien. Et puis d'ailleurs, on est encouragé de le faire depuis l'évangile de premier jour de carême d'hier, mercredi décembre, quand Jésus nous dit « quand tu vas prier, entre dans le secret, dans ta chambre, ferme la porte et essaye de rencontrer ton Père dans le secret. » Et bien, c'est une parole qui nous, n'est-ce pas, qui nous interpelle. Puis on aura aussi d'autres textes qui vont nous encourager à bien sûr, renouveler notre façon même de prier, sûrement. Puis d'autre part, on peut se dire, moi je prie très bien, mais il y a un problème quand même. Moi j'ai l'impression que je ne peux pas faire mieux. Alors pourquoi Dieu ne m'écoute pas? Il peut y avoir un combat comme ça en nous. Et on va continuer ce texte pour savoir un peu qu'est-ce que Jésus lui-même, en fait, veut nous enseigner. Et comment nous pouvons apprendre de lui, hein, qui est à la fois le modèle de prière pour nous tous, et en même temps qui est la base de toute vie chrétienne, en fait. Parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de vie chrétienne, donc il n'y a pas de vraie prière non plus, en fait. La prière suppliante de Jésus. Les premières expressions qu'on vient d'entendre dans le texte, qu'on peut le lire aussi, nous montrent à quel point donc Jésus était l'un de nous. Il se trouve dans une situation humainement désespérée. Il prie et supplie celui qui peut le sauver de la mort avec une violente clameur et des larmes. Les demandes de supplication adressées à celui qui peut le sauver de la mort nous font penser, bien sûr, à ces textes évangéliques de l'agonie à Gethsémani que nous avons l'habitude de prendre et de méditer durant cette heure sainte, ici même, dans cette chapelle des apparitions. Saint Marc, par exemple, dit « Saisi d'effroi et d'angoisse, il tombait à terre et priait. Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. » Ou encore le mot « clameur » ou « grand cri » dont parle aussi cette lettre aux Hébreux un peu plus tard, ne se réfère pas à ces circonstances douloureuses du jardin de Gethsémani, mais à un autre moment, peut-être encore plus dramatique, sur le calvaire, quand Jésus, dit encore sa marque, clama en un grand cri « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Grand cri. Ainsi donc, dans cet épître aux Hébreux, la pensée de l'auteur serait en fait moins d'appeler notre attention sur un épisode très précis de la passion de Jésus que plutôt d'en faire une évocation d'ensemble. C'est en général à de multiples reprises que Jésus a offert clameurs et larmes avec une grande insistance. Il y a aussi des expressions qui se rapprochent à des prières des psaumes sans nécessairement faire référence à un texte très précis dans ce sens. Il s'agit de prières intenses qui surgissent de la situation des hommes qui sont en proie à la tribulation. Donc, ce texte nous apprend d'abord, non pas tellement les détails ou une description dans le fait que telle ou telle prière a été plus importante dans la vie de Jésus, mais qu'il s'agit ici de la passion même de Jésus. Ce temps de souffrance qu'il a enduré durant sa vie, qui est devenu une prière. Cette passion de Jésus est présentée comme une prière. Et donc de la longue série des épisodes douloureux au cours desquels Jésus a expérimenté les plus cruelles épreuves que l'on puisse supporter, et on le connaît un peu, la trahison, l'abandon, le reniement, le procès qui était inique aussi, la condamnation injuste, les coups, les humiliations, flagellations, crucifixions, eh bien, l'auteur ici ne retient que la façon de tout affronter. Cette attitude que Jésus a vécue, qui était la prière. L'effet tragique qui mettait en question toute l'œuvre de Jésus, sa mission et sa personne elle-même, qui menaçait de l'anéantir dans la mort, ont provoqué en lui une prière intense. Et cette prière n'est pas du tout comprise ici dans un sens liturgique, conventionnel, avec des rites fixés d'avance, mais il s'agit de cette réaction violente, véhémente, d'un homme dont l'existence est exposée au plus grave danger et qui, plus que Jésus, a pu se présenter dans une telle situation. Et le texte nous dit que cette prière intense a été exaucée. Mais alors, comment il faut entendre cette affirmation? Pour comprendre le sens, il faudrait peut-être savoir ce que Jésus a demandé dans sa prière. Alors certains disent qu'il a demandé au Père de le délivrer de la mort. Et en réalité, on voit qu'il n'a pas été délivré de la mort parce qu'il est vraiment mort. Et donc du coup, certains disent, en fait, l'auteur de la lettre voulait dire qu'il n'a pas été exaucé. Et qu'un peu plus tard, un copiste de la lettre, qui est un peu scandalisé, un copiste chrétien, est un peu choqué, dit « mais c'est pas possible », donc il a corrigé le texte. Bon, certains exégètes s'amusent même, je dirais, avec des interprétations comme ça. Voilà. Mais en même temps, il est vrai qu'il s'agit, en effet, d'un sens un peu caché du texte. C'est pourquoi ce n'est pas évident de l'interpréter. Il s'agit de le lire attentivement et continuer cette lecture. Quel est le contenu de la prière de Jésus? Mais on ne sait pas avec une grande facilité cela. Parce qu'en effet, il est sûr que la formulation du texte suggère que l'objet de la prière est d'être sauvé. Et sûrement Jésus a dû invoquer cela. Mais il y a différentes manières d'être sauvé, en fait. Et nous voyons plusieurs possibilités d'être exaucé. Il nous dit, en revanche, un aspect très important au niveau de cette attitude de Jésus, quand il dit que le Christ a été exaucé en raison de son profond respect. Qu'est-ce que c'est que ce profond respect ? Eh bien, il s'agit d'un sentiment qu'on pourrait appeler crainte religieuse. Le mot qui dit ce mot, profond respect, peut être aussi confondu parfois avec le mot peur ou angoisse, mais en réalité, il s'agit d'une traduction plus correcte et plus juste que de dire bonne acceptation ou attention respectueuse envers quelqu'un. Et Saint Luc utilise parfois ce mot en sens de religieux ou pieux même. Alors, ce qu'on doit retenir ici, c'est justement ce que notre traduction même liturgique le dit, il fut exaucé en raison de sa grande piété ou son grand respect. Ce qui permet qu'une prière soit exaucée, c'est justement donc l'attitude de respect envers Dieu, de celui qui la formule. C'est à ce moment-là qu'en fait, nous pouvons retenir cela pour nous, la prière ouvre l'être humain à l'action de Dieu et rend possible son accueil. Le psaume 144, par exemple, le dit clairement, Dieu fera la volonté de ceux qui le craignent. Dieu fera la volonté de ceux qui le craignent. Il exaucera leurs demandes et les sauvera. Psaume 44, donc, verset 19. Alors, à partir de là, on peut essayer de discerner, de comprendre le mouvement interne de cette prière qui est en fait présente dans le cœur, qui jaillit du cœur même de Jésus, telle qu'elle vient d'être expliquée à partir de ce verset 7. En proie à l'angoisse de la mort imminente, Jésus a ressenti un désir instinctif d'y échapper. Il ne veut pas mourir. Il ne repousse pas cette impulsion humaine, mais la présente à Dieu dans une prière suppliante qui jaillit avec force de son vouloir vivre d'homme, comme nous tous en fait. Et sa prière, cependant, était toute pénétrée du respect de Dieu et par conséquent, il se gardait de vouloir imposer à Dieu une solution préconçue. Jésus ne dit pas à Dieu ce qu'il doit faire, en fait, vous voyez. Comme peut-être nous sommes tentés souvent. C'est important de retenir ce point encore. Celui qui prie ne se permet pas de décider lui-même de la réponse à sa demande et ne prétend pas mettre en œuvre sa propre délivrance. Il suffit de se rappeler des mots que les évangélistes soulignent aussi quand Jésus était sur la croix. Donc, Il était crucifié. Les gens, les uns après les autres, passent en disant, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. D'autres qui viennent pour lui dire, sauve-toi toi-même. Sauve-toi toi-même. Puis d'autres qui se moquaient en disant, d'autres il a pu sauver, on a pu sauver, mais lui, il ne peut pas se sauver tout seul. Hein. Donc, c'est du mensonge en fait. Vous voyez des différentes façons de, où Jésus a été tenté à, sur ce point précis, de se délivrer tout seul. Ou alors, évidemment, si on, on va méditer dimanche prochain, les tentations de Jésus dans le désert, c'est tout à fait cela. Transforme ces pierres en pain, t'as quand même faim, mais mange quoi. Donne-toi tout seul à manger, sauve-toi, en fait. Eh bien, Jésus fait pas cela. Il, donc, n'impose pas à Dieu, voilà, sa propre solution. Mais qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il s'ouvre à l'action de Dieu. Et il apprend, il nous apprend, nous tous qui voulons prier, en vérité, eh bien, à nous ouvrir à cette relation interpersonnelle avec Dieu. Ce faisant, l'homme qui prie se soumet à une force d'attraction de la part de Dieu, qui, non sans un douloureux combat, opère en lui une transformation. Il y a quelque chose qui change dans le cœur de celui qui prie ainsi. Et donc du coup, l'objet de sa prière devient secondaire. Ce qui importe avant tout, ce n'est pas tellement ce que lui va dire, ce que nous donc disons dans la prière ou demandons, mais ce qui importe, c'est la relation avec Dieu. Et donc selon les évangiles, là aussi, nous le méditons surtout en Saint Matthieu, quand nous prenons le texte de l'agonie, après avoir imploré sa délivrance, Jésus ajoute, cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. C'est en Saint Matthieu, chapitre 26, verset 39. Et dans la suite, ce qui semblait être une clause ajoutée devient peu à peu la demande principale. Comme tu veux devient, mon Père, que ta volonté soit faite. C'est un peu plus loin, au verset 42. Donc, dans la prière, s'est opérée une transformation du désir qui s'est modelée sur la volonté du Père, y adhérant absolument en tout, parce que celui qui prie aspire avant tout à cette union de la volonté dans l'amour. Et c'est cela qui est vraiment prioritaire, enfin, l'essentiel de la prière. Et si nous pouvons donc comprendre que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, en fait, a renoncé à préciser dans sa phrase l'objet de la prière de Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit, le contenu lui-même? Mais il s'est contenté simplement de le suggérer indirectement. Et de cette manière, seulement, il pouvait indiquer ce dynamisme de la transformation du cœur. Au début, Jésus aspirait certainement à demander la victoire sur la mort, mais l'aspect fondamental de sa prière était donc qu'il s'adressait à Dieu avec piété, avec un profond respect. Jésus n'a pas renoncé au dernier moment à ses aspirations d'homme, mais il s'est totalement remis à Dieu pour le choix de la voie à suivre. Et une prière de ce genre ouvre à l'action divine. On est respectueuse et n'oppose aucun obstacle à la générosité de Dieu. Et donc dans le cas de Jésus, oui, la réponse a été une victoire totale sur la mort, qui a été obtenue à travers la mort même, nous dit la même épître au chapitre 2, verset 14. Alors, cet exaucement de la prière n'a pas eu pour Jésus le caractère d'échapper à l'épreuve, mais celui d'une transformation de la souffrance qu'il a endurée, en son propre corps, en son âme aussi, la transformation de la souffrance en moyen de salut. La même phrase le dit ensuite. Après avoir mentionné la demande de l'exaucement, l'auteur poursuit en ces termes, nous pouvons le lire, « Tout fils qu'il était, il a pris de ceux qui souffrit l'obéissance et, ayant été rendu parfait, il est devenu principe de salut éternel. » Alors, dans ces expressions d'une grande densité, bien sûr, nous pouvons discerner les divers aspects de cet exaucement, en quoi la prière a été exaucée, et aussi ces étapes successives. D'abord, obéissance, ensuite, perfection, et enfin, une fécondité salvifique. Alors, concernant le premier aspect, l'obéissance, ça peut un peu nous troubler, parce que on ne s'imagine pas que le Fils apprenne l'obéissance alors que il est Fils de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est, en fait, cette obéissance? Apprendre à obéir à Dieu. Et c'est, en fait, le premier fruit d'une prière authentique, hein, apprendre à obéir à Dieu. Il consiste à retirer un résultat spirituel positif des épreuves et des souffrances qui, en soi, tendent à produire un résultat négatif de révolte ou de division. Mais c'est grâce à la prière que la souffrance et la mort elles-mêmes peuvent changer de sens. Au lieu de produire le mal, elles ont produit un bien. Elles ont servi à établir une relation plus étroite et plus profonde entre l'homme et Dieu. Elles sont devenues un moyen de transformation de l'homme lui-même. Et quand la personne qui souffre s'ouvre totalement à Dieu dans la prière, Dieu transforme la souffrance et celui qui souffre en lui communiquant sa sainteté, sa charité. On pourra le lire plus loin au chapitre 12, verset 10. Jusqu'à l'introduire dans son intimité glorieuse. Par la souffrance imprégnée de prière, Dieu met en l'homme la vraie docilité, c'est-à-dire la disponibilité entière qui est une condition pour s'unir parfaitement dans l'amour. C'est là le premier fruit de la prière, le premier exaucement reçu. Apprendre l'obéissance qui unit à Dieu. Unit à Dieu. Et voilà comment l'obéissance et l'exaucement de la prière se rejoignent ainsi en profondeur. Alors le contraste, la contradiction qu'on remarquait au début tout à l'heure, était donc seulement apparente et superficielle, car il n'y a pas de contradiction entre être exaucé par Dieu et se soumettre totalement à sa volonté. Il y a bien plutôt une profonde cohérence. La prière demande une intervention divine et l'obéissance accueille précisément cette intervention. L'exaucement de la prière se confond avec la transformation de l'homme opérée par Dieu à travers la souffrance. Alors le deuxième aspect, pour l'homme, ça pourrait être un chemin normal, qu'il passe par cette souffrance-là présentée à Dieu afin qu'il puisse obéir. Mais Jésus, le Christ, comment est-ce qu'il peut apprendre l'obéissance? N'est-ce qu'il n'est pas depuis toujours le Fils, parfaitement uni au Père? L'auteur, d'ailleurs, l'a proclamé dès le début de la lettre. Il était Fils déjà, resplendissement de la gloire de Dieu, expression de son être. On lisait ça au chapitre 1, verset 3. Donc, bien sûr, dans ce sens, il n'a aucun besoin d'être éduqué à la souffrance. Il s'y soumet, tout Fils qu'il était. Il pria, il souffrit. Mais non en tant que Fils de Dieu, mais parce qu'il était notre frère. Et l'auteur de cette lettre n'hésite pas à dire que le Christ fut transformé par la prière et la souffrance, et il fut rendu parfait à cause de cela. Il s'agit en fait de tout cet aspect de l'incarnation, en fait, que le Fils de Dieu a voulu vivre pour se rendre un de nous. Donc, nous ne devons pas penser que Jésus a été l'une ou l'autre fois en révolte contre Dieu, ni qu'il ait personnellement eu besoin d'être éduqué à l'obéissance. Mais l'auteur a par avance exclu donc toute interprétation de ce genre en précisant que Jésus était sans péché. Jésus, en effet, n'a jamais désobéi à Dieu. Au contraire, dès son entrée dans ce monde, il a assumé la tâche de faire la volonté de Dieu. Et notre nature de chair et de sang, dont il voulut participer, était déformée, malheureusement, par la désobéissance. Et c'est notre nature, justement blessée, qui avait besoin d'être redressée. Elle devait être refondue dans le creuset de la souffrance et transformée par l'action de Dieu. Alors, aucun fils d'Adam, aucun être humain n'a jamais, n'a jamais été capable d'accueillir comme il fallait cette action divine, profonde, au-delà de toute mesure. Seul Jésus a pu le faire. Alors pour lui, il n'en avait pas besoin, mais il fut capable de bien l'accueillir et s'y soumet effectivement dans le drame de sa passion pour nous. Il a appris l'obéissance pour chacun d'entre nous. Et en lui, grâce à sa souffrance transformée par la prière, un homme nouveau a été créé, qui répond parfaitement à l'intention divine, parce qu'il s'est constitué dans l'obéissance la plus entière. Donc voilà ce deuxième résultat de la prière du Christ, ce second exaucement. Le Christ a été rendu parfait. Il est devenu l'homme nouveau, l'homme parfait, pleinement conforme au plan de Dieu, pleinement agréable à Dieu. Et troisièmement, cette transformation admirable de la nature humaine fut réalisée pour nous, par Jésus, dans un extraordinaire et extrême mouvement de solidarité avec nous. Et c'est pourquoi la prière de la Passion du Christ obtient un troisième exaucement dans le fait qu'il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, principe de salut éternel. La glorification du Christ n'a pas été un événement de pur caractère individuel, ce n'était pas pour lui seulement. Mais justement, il est devenu celui qui peut sauver l'univers entier. Il s'agit là d'une portée universelle. Et c'est pourquoi, pour finir, un dernier aspect de l'exaucement, le Christ a été proclamé par Dieu grand prêtre. Donc on voit bien la relation entre cette proclamation finale et tout ce qui a été dit avant. Le Christ peut être proclamé grand prêtre justement parce que sa passion, affrontée et dominée dans la prière, l'a rendue parfaitement agréable à Dieu et principe de salut éternel pour les hommes. Donc il possède les deux relations nécessaires pour remplir la fonction de médiateur sacerdotal. La relation intime à Dieu, d'une part, et d'autre part, celle de solidarité avec chacun d'entre nous. Tout le contexte invite ainsi sur cette valeur sacerdotale de la prière de Jésus pendant sa passion. Et avant de finir, je vais attirer encore votre attention sur quelque chose de très, très beau. Il s'agit du rapport entre la prière et l'offrande. Au verset 1 de ce chapitre que on n'a pas lu, l'auteur disait « Tout grand prêtre est établi afin d'offrir dons et sacrifices. » Et ici, l'auteur dit que le Christ a offert demandes et supplications. Alors, c'est quelque chose de paradoxal. Une affirmation qui rattache l'une à l'autre l'offrande et la demande, et les confond même, alors qu'il s'agit de deux choses normalement distinctes. L'offre et la demande, ce n'est pas la même chose. Alors qu'est-ce que Jésus en fait a vécu? En soi, l'attitude de celui qui offre, oui, elle est différente de celle de celui qui demande. Et pourtant, voilà, le Christ a offert en tant qu'il a demandé. Et cette analyse de la phrase fait comprendre combien il est vrai que la prière du Christ a constitué une offrande faite à Dieu, la plus réelle, la plus profonde des offrandes. Nous l'avons constaté, Jésus a inséré dans sa prière toute la réalité de sa situation tragique, qu'il a présentée à Dieu, l'ouvrant à l'action divine. Un peu plus avant dans la lettre, l'auteur rappellera le même événement en se servant d'une expression plus synthétique et plus forte. Il dira « Le Christ s'offrit lui-même ». Donc au lieu d'offrir des dons et des sacrifices externes, c'est-à-dire les cadavres des animaux immolés, comme le faisaient les prêtres de l'Ancien Testament, le Christ a réalisé dans sa prière intense l'offrande personnelle de lui-même. Et c'est ainsi qu'il est devenu à la fois prêtre parfait et victime agréée. Donc cette transformation, sa transformation, eut ce double aspect, ces doubles valeurs. La nature humaine du Christ, transformée par la prière vécue et la souffrance, a été introduite dans l'intimité glorieuse de Dieu, en victime agréable et glorifiée. Et d'autre part, par cette même expérience de souffrance et de prière, le Christ a réalisé à jamais une union on ne peut plus étroite avec ses frères, avec nous, avec chacun d'entre nous, avec lesquels et pour lesquels il accepta les plus douloureuses épreuves. La prière existentielle du Christ l'a constitué ainsi ce principe de salut éternel pour tous, grand prêtre, médiateur d'une nouvelle alliance. Et voilà pourquoi cette extraordinaire fécondité d'une prière qui va conférer à un événement humain tragique et scandaleux qui était la passion et la mort sur la croix, sa valeur d'une offrande sacerdotale parfaite. Pour terminer, je vais vous inviter simplement à nous rendre compte de cette puissance de la prière du Seigneur qui continue là, dans cette hostie, et telle qu'elle est présentée dans ce petit passage de l'Épître aux Hébreux, eh bien, elle nous montre qu'il y a là une lumière inépuisable qui jaillit et qui illumine non seulement le mystère même de Jésus, mais la profondeur de toute vie spirituelle. Cette prière de Jésus est pour nous un modèle. Encore que nous devions reconnaître qu'elle constitue aussi un idéal inaccessible par nos propres forces humaines. Aucun homme, aucun d'entre nous n'est capable de parvenir à une prière si profonde et si généreuse. Parce que nul ne peut de lui-même transformer les plus dures épreuves de son existence en occasion d'ouverture totale à Dieu et aux hommes. La prière de Jésus a une place unique. Et cependant, nous sommes appelés à la continuer dans notre vie et notre mort. Et nous le pouvons précisément grâce à cette même prière de Jésus. Alors, durant ce temps, bien sûr, de carême, nous pouvons faire nôtre cette prière, entrer, plonger dans cette prière de Jésus, afin que notre propre façon même de prier, eh bien, soit transformée de l'intérieur, comme on le désire d'ailleurs. Je vais vous proposer, pour passer à un dernier aspect de cette intercession du Seigneur, de chercher chez vous le chapitre 7 de cette même épître aux Hébreux, le verset 25. Là où il va s'agir aussi d'une prière de Jésus qui ne sera plus la prière terrestre, mais la prière céleste en fait. Parce qu'une fois qu'il a été élevé dans la gloire du ciel, eh bien Jésus continue d'intercéder pour nous. Et je vais citer simplement ce verset avant de commencer l'heure sainte. Ceux-là, écrit l'auteur de l'Épître, sont devenus prêtres en grand nombre parce que la mort les empêchait de durer. Il parlait des prêtres de l'Ancien Testament. Mais lui, Jésus, du fait qu'il demeure pour l'éternité, il a un sacerdoce qui ne passe pas. D'où il suit qu'il est capable de sauver de façon définitive ceux qui, par lui, s'avancent vers Dieu, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Toujours vivants. Ce n'est plus une prière pour être exaucé de la mort, mais c'est une intercession permanente pour tous ceux et celles qui s'approchent de lui. Ce qu'il a vécu durant sa vie terrestre, eh ben, il l'a fait une fois pour toutes. Tandis que cette intercession actuelle est éternelle. Étant toujours vivant, eh bien, Jésus intercède en notre faveur. Et entrons dans cette prière maintenant.